Bienvenue sur la chaîne AAU. Retrouvez, lors du premier séminaire du projet ANR Sensibilia, sensibiliser l'enquête de terrain, l'intervention de l'anthropologue François Laplantine, qui développe une anthropologie modale, une écriture des rythmes et des modulations qui s'appuie sur un dépaysement et incite à devenir sensible autrement.
Donc, vous présentez rapidement François Laplantine avant qu'il prenne la parole, même si je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà bien. Donc, professeur émérite en ethnologie et anthropologie, il a notamment contribué à fonder le département d'anthropologie à l'université Lyon 2. Des thèmes de recherche qui font bien sûr écho à ce qui nous anime un petit peu tous, à savoir la ville et le côté sensible de la ville, en mobilisant le son, les images, le langage, avec bien sûr cette approche ethnologique. Donc le prisme du sensible est très présent. Il a travaillé sur différents continents, donc différents terrains d'enquête qui peuvent du coup nous amener des approches intéressantes sur le Brésil, le Japon ou encore la Chine. Et il nous propose aussi une approche qu'il nomme l'anthropologie modale, et peut-être qu'elle sera l'occasion, ce sera l'occasion cet après-midi d'en discuter, puisque voilà, c'est, l'idée c'est d'aller au-delà d'une pensée binaire d'opposition. Je ne sais pas si je traduis bien sa pensée, mais en tout cas il nous le redira tout à l'heure certainement, mais d'aller vers des perspectives justement plus dans les variations de degrés ou d'intensité. Donc François Laplantine est un chercheur reconnu, très largement traduit dans différentes langues, sur tout un tas d'ouvrages. J'en ai quelques-uns sous les yeux, donc j'en oublie forcément certains, il y a forcément un tri. La description ethnographique, le social et le sensible, son image, langage, le sujet, essai d'anthropologie politique, quand le moi devient autre, le Japon ou le sens des extrêmes et penser le sensible dont vous avez reçu en lecture préparatoire un chapitre intitulé « Percevoir, ambiance, lieu et lien ».
Alors François, est-ce que la connexion est bonne ?
Bien, bonjour à toutes et à tous. Mais je regrette beaucoup de ne pas être avec vous hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus de la même nature. Alors, je vais essayer de resserrer un peu mon propos en une trentaine de minutes. Je voudrais évoquer quelques éléments autobiographiques. Moi, je viens de la philosophie. J'ai fait mes études d'abord de philo à Paris avec des gens qui s'appellent Jean Kelevich, Lévinas, Paul Ricoeur, qui a dirigé ma première thèse de doctorat. Et c'est à Ricoeur que je dois mes préoccupations constantes pour le langage, le passage de la philosophie à l'anthropologie s'est fait à partir d'un séjour de 2 ans au Maroc et aussi de ma rencontre de Georges Devreux qui a dirigé ma deuxième thèse. Et Georges Devreux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chercheur, c'est le fondateur d'une discipline qui s'appelle l'ethnopsychiatrie. Devreux exigeait de tous ses étudiants un engagement qui était d'entreprendre une cure psychanalytique, ce que j'ai fait pendant 6 ans. Et je crois que pour moi, c'était nécessaire parce que, on y reviendra, la relation ethnographique est une relation qui engage ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert, dans lequel il y a de l'inconscient. Mon itinéraire personnel, il s'organise à partir de 3 approches. La philosophie, je préfère dire l'épistémologie, l'anthropologie qui est pour moi d'abord ethnographie et la psychanalyse. C'est pas des disciplines, vous avez parlé tout à l'heure de disciplines, c'est des expériences. C'est des voies au sens du grec méthode, au sens japonais de do. Et ces voies, il ne faut pas les courtiser, il faut s'engager jusqu'au bout dans chacune d'elles. Souvent, elles se complètent, parfois elles se contredisent, elles se contrarient. J'essaye donc d'ouvrir des voies avec la littérature, parce que la littérature, c'est le plein exercice du langage, avec le cinéma, parce que le cinéma, c'est la puissance maximale de l'image, et aujourd'hui, avec le théâtre et la danse contemporaine. Donc ces voies, elles sont multiples, alors qu'en Occident, nous avons tendance à en privilégier seule, qui est la voie de l'analyse et de la décomposition. Il nous faut analyser, mais sans déchirer. Alors, en ce qui concerne les terrains, le parcours qui est le mien commence au Maroc et en Tunisie. Il se poursuit en Côte d'Ivoire chez les Baoulés. Puis, il se déplace des Africains aux Afro-Brésiliens par une immersion dans les terreiros de Candomblé, qui est une religion afro-brésilienne dans laquelle j'ai été initié. Alors, je vais vous dire quelques mots de cette expérience. Le Candomblé, c'est un apprentissage sensoriel qui commence avec l'identification par divination de ce qu'on appelle dans la langue yoruba un orisha, qui est une force ancestrale, qui est une énergie animale et végétale et minérale. Une fois votre orisha identifié, les orishas, ils arrivent d'Afrique, celui qui vous initie vous apprend à développer des harmonies musicales, chromatiques, chorégraphiques et d'abord culinaires. L'orisha que vous allez incorporer à travers un processus de transe vous nourrit, vous renforce. C'est un apprentissage nutritif. Et moi, ce que j'ai appris au cours d'une initiation, ce sont les relations uniques et personnalités que chacun d'entre nous entretenons avec des aliments, mais aussi avec des sons, avec des couleurs, avec des mouvements du corps. Une cérémonie de candomblé commence en appelant successivement chacun des orishas, et ces derniers sont appelés musicalement au son de grand tambour, chromatiquement, chorégraphiquement. Ils arrivent en dansant de manière lente, curviligne, sinueuse, serpentine, dans un rythme qui s'appelle au Brésil la ginga, qui est une manière horizontale, ondulante, zigzagante de se déplacer. Et lorsque tous les orishas sont réunis, nous assistons à un spectacle total, un éveil de tous les sens. Pour moi qui suis athée, c'est pas seulement une religion, c'est une forme théâtrale très proche de la conception du théâtre d'Antonin Artaud, qui estime que l'acteur doit incorporer un personnage au point de devenir possédé. C'est ce que Peter Brook appelle théâtre sacré et Ariane Mnouchkine cérémonial théâtral. Vous voyez, à partir de ce que je viens de dire de manière très concise, ce profil, ce qui progressivement va s'imposer à moi, c'est le rapport étroit entre le sensible et l'esthétique. Le candomblé m'a permis d'apprendre ce que je n'avais pas du tout appris au cours d'une cure psychanalytique très freudienne, parce que ce qui se joue dans la psychanalyse se joue dans le langage. Là, c'est physique, c'est sensuel. Ça, c'est au Brésil. Et le Brésil, dans lequel j'ai travaillé pendant une trentaine d'années, c'est le pays qui a transformé ma manière de faire de la recherche. Je pense souvent à la phrase de Fernand Braudel qui écrit « Le Brésil m'a rendu plus intelligent ». Je ne sais pas ce que je serais devenu sans ce pays. Mais depuis une douzaine d'années, je me déplace vers l'Asie, comme l'a dit Nathalie, la Chine et surtout le Japon. La Chine transmet de l'optimisme, le Japon est désabusé. Mais je tiens beaucoup au Japon parce que c'est le pays qui a inventé la première forme de modernité non occidentale, parce que c'est une société qui n'est pas du tout compacte et qui nous permet de développer une pensée qui n'est ni une pensée de l'un ni une pensée de l'autre, mais une pensée de l'entre. Au Japon, nous évoluons sans cesse entre plusieurs registres de comportement, plusieurs régimes de connaissances. Alors ça, c'était des préalables, je n'ai pas encore commencé, je vais commencer, je partirai. De la difficulté que nous éprouvons dans ce qu'on appelle Occident à réintégrer le corps dans la culture et a fortiori dans ce qu'on appelle la science qui, de toute évidence, fait partie de la culture. Je lis étroitement hein, le sensible et le corps, mais cette difficulté vient de l'épistémologie rationaliste, en fait idéaliste, qui procède à une séparation l'intelligible, du corps et le sensible, il est rejeté par Descartes dans le domaine de l'erreur et de l'illusion. Il est considéré comme un obstacle majeur à la connaissance scientifique. Descartes distingue et oppose un esprit sujet qui pense mais est incapable de sentir et un corps objet qui ressent, mais est incapable de penser. Le corps, il est défini par les propriétés de l'étendue, c'est-à-dire de l'espace, et il est réduit au statut de choséité. Cette épistémologie que l'on appelle rationaliste n'est pas très raisonnable. Le rationalisme, ce n'est pas un réalisme, c'est un idéalisme qui durcit la conception du monde qui est celle du christianisme et en deçà de Platon. C'est une épistémologie de la disjonction commandée par un principe de subordination. Je crois que ce qui est intéressant pour nous, c'est de nous affranchir de cette dualité, ne pas nous résigner à l'enfermement dans une binarité tranquille qui est celle de la tendance dominante de l'épistémologie occidentale, que je qualifierais de logocentrique, qui consiste à tout séparer en deux, l'intelligible et le sensible, qui serait de l'intelligible confus, la raison et l'émotion, le concept et le percept, les idées et les images, connaître et regarder, le signifiant et le signifié, l'écrit et l'oral, la réalité et la fiction, qui serait du mensonge. Ces séparations en cascade, elles sont tellement nombreuses qu'elles ne tiendraient pas dans la pièce dans laquelle je me trouve. Et à travers elles, se dissimule à peine la subordination du féminin par rapport au masculin. Nous sommes encore empêtrés dans le binaire et la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est de ne pas arriver à relier ce que nous avons séparé et hiérarchisé, mais relié, pas n'importe comment, tout séparé en deux. Le sujet et l'objet, le sujet et le social, la science et la conscience, le savant et le politique, la connaissance et l'éthique, conduit à nous désolidariser. Alors, c'est ici que je vais commencer à aborder la démarche qui nous réunit, enfin on verra tout à l'heure si nous la partageons, que moi j'appelle l'ethnographie et qui est liée à l'expérience que nous appelons terrain, qui doit s'effectuer dans une temporalité lente dans laquelle nous cherchons à nous imprégner des comportements qui nous sont initialement étrangers jusqu'à les intérioriser. Le terrain, c'est un processus d'acculturation à l'envers. Ce n'est pas apprendre, c'est désapprendre. Et il y a plusieurs manières de désapprendre et d'apprendre une culture qui nous est initialement étrangère, mais deux d'entre elles me semblent devoir être privilégiées. C'est d'une part parler avec les autres dans leur propre langue, et c'est manger avec eux leur propre cuisine. Et ça, c'est parfois une épreuve à laquelle je me trouve en particulier confronté au Japon. Construire la phrase sans sujet grammatical, sans singulier pluriel, sans masculin féminin, sans aucun repère étymologique gréco-latin, et faire varier la phrase en fonction de votre interlocuteur. Et puis la deuxième difficulté, la cuisine, au petit déjeuner, se courber par terre pour manger des harengs crus assaisonnés de vinaigre. Il ne s'agit pas pour moi de devenir japonais, alors qu'il y a quelques années, j'aurais pu devenir brésilien, mais d'intérioriser des comportements très simples afin de pouvoir les décrire avec le plus de précision possible. L'ethnographie, c'est l'attention à ce que l'on remarque à peine et a tendance à être éradiqué comme le furent à Rome les lucioles par la lumière aveuglante des projecteurs. L'ethnographie, c'est l'attention à des interactions ordinaires, banales, à la limite du visible, et c'est l'observation et la description de détails en apparence anodins. C'est l'attention au petit et le souci du précis qui réintègrent le sensible dans la connaissance. C'est pourquoi nous pouvons parler de connaissance sur un mode mineur. Cette connaissance, elle se profile en littérature avec un certain nombre de textes chercheuses qui s'appellent Kafka, Catherine Mansfield, en musique avec Schoenberg, dans le cinéma japonais avec Ozu, dans le théâtre avec Beckett, Peter Brook. Mais on pourrait aussi évoquer Basho, l'un des maîtres du haïku, qui est, comme vous le savez, l'art de la concision et de la précision. Et on pourrait évoquer l'architecture et le design japonais issu de l'artisanat Mingei qui tend vers le plus grand dépouillement. Alors, ces formes, elles s'accordent avec l'ethnographie parce que l'ethnographie privilégie le minuscule et le microscopique pour parvenir à ce qu'on appelle ethnologie, qui est une micrologie. Mais ça, ce n'est pas antagoniste du grand, du mondial, du global. Ce qu'il y a de plus stimulant pour moi, ce sont les villes, et plus précisément les grandes villes. Et cette expérimentation d'écriture ethnographique de la ville, je l'ai tentée à trois reprises, une première fois au Brésil, à São Paulo, une seconde fois à Tokyo, une troisième fois à Pékin, et puis un petit peu à Rio, où nous sommes allés, Jean-Paul Thibault et moi. Alors qu'est-ce que je fais? C'est s'imprégner des odeurs, des saveurs, des sons, des images, des interactions à l'université, dans les restaurants, dans les bars, dans les bus, dans les métros, dans les commerces, dans les rues. Plutôt que de parler des villes avec des chiffres et des schémas, choisir d'observer des corps en mouvement, des gestes, des attitudes, d'écrire une ambiance, je sais que c'est une notion à laquelle vous tenez, d'écrire une ambiance urbaine, à la fois dans ses temps forts et dans ce que Raymond Depardon appelle ses temps faibles. Il n'existe que des singularités concrètes en situation et en mouvement, ce qui s'oppose à la violence de la généralisation et de l'abstraction. Il y a une antinomie entre l'anthropologie et l'abstraction. L'abstraction qui n'est pas la théorie. L'anthropologie et l'abstraction s'excluent mutuellement, alors que l'anthropologie et le corps sont étroitement intriqués. Je vais dire autrement les choses, l'ethnographie. C'est un mode de connaissance par l'écoute et le regard. Dans une expérience de terrain, alors moi j'utilise jamais le mot enquête, j'utilise jamais. Dans une expérience de terrain, nous menons des entretiens et nous effectuons des observations. Des entretiens, c'est-à-dire l'écoute, des observations, c'est-à-dire le regard. Mais cette expérience Elle engage la totalité des sens, les sensations non seulement auditives et perceptives, mais gustatives, olfactives, tactiles et thermiques. Je crois que tous dans cette salle, vous connaissez la proposition célèbre de Marcel Mauss, les faits sociaux sont des faits totaux. Et j'ai transformé cette proposition dans une autre qui devient « Les faits sociaux sont des faits sonores, visuels et gestuels. » Penser le sensible, c'est penser en son, en geste et en image. C'est une pensée du sonore, mais aussi du silence. C'est une pensée du visible, et en particulier du visage, mais aussi de l'invisible. Le propre de la vie des sensations, c'est qu'elles se transforment sans cesse, elles ne peuvent être fixées, stabilisées dans la logique du signe, elles appellent une pensée du rythme. Une pensée du sensible ne peut être sémiologique, elle doit être rythmologique. Je le dirai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, chorégraphique. Je propose donc un mode de connaissance qui ne soit plus, j'ai employé des gros mots, paradigmatique mais syntagmatique. Je me réfère à De Saussure. Syntagmatique, ça veut dire par association. J'essaye donc de frayer une voie, frayer au sens psychanalytique de frayage, qui s'oppose à forçage. Et cette voie, je l'appelle anthropologie sujet, anthropologie du corps sujet engagé dans le langage et ce qui excède le langage. Et cette voie, je la fraye horizontalement par association, non pas en construisant des lignes de force, mais en parcourant ce que Deleuze appelle des lignes de fuite. Or, il nous faut dans ce cheminement travailler à une théorie critique du signe, remettre en question l'idéologie du signe et du signal. Le signal est monovalent, inéquivoque, indiscutable, feu rouge je m'arrête, feu vert je passe. Le signe, c'est une unité de sens découpée dans la continuité du vivant. Vous voyez, c'est une espèce d'arrêt sur image qui stabilise et enferme la pensée dans des catégories binaires. Le profane et le sacré, la santé et la maladie, l'autochtone et l'étranger. Le signe postule une plénitude et une anhistoricité du sens. Dans son intemporalité, il ignore l'absence, il réduit le réel à n'être que de l'actuel, alors que le réel recèle aussi du virtuel. Le signe est arythmique, il est réfractaire à l'oscillation du trait et du retrait, du flux et du reflux, de l'apparaître et du disparaître, il est réfractaire à l'interprétation. Donc je nous propose d'abandonner la logique de la discontinuité de signes oppositionnels afin de nous engager dans une pensée de la continuité du rythme. Tous ceux qui font de la musique comprennent ça. Comme l'a dit le musicien catalan Pablo Casals, le rythme, c'est le retard. Dans une pensée rythmique, l'unité du langage, ce n'est pas le mot, mais la phrase. La phrase en train d'être prononcée et pouvant être réfutée, contredite. De même, l'unité du film, ce n'est pas l'image, mais le plan qui, dans le travail du montage, va être associé à d'autres plans pouvant le compléter, mais aussi s'y opposer. Ce qui se joue dans le cinéma ne se joue pas dans l'image, mais dans la construction du plan, se joue entre le plan. J'aime beaucoup la manière dont Pasolini définit le cinéma. Il dit le cinéma, c'est la tension entre le plan et le raccord. Donc, après ce détour, je reviens Je préconise d'en revenir toujours à l'ethnographie, qui est la recherche de la co-construction du sens dans lequel les acteurs sont à égalité. Il n'y a pas de méta-langage, de méta-histoire, de méta-culture, il n'y a pas d'au-delà des cultures, il n'y a pas de position hiérarchique de surplomb. On ne remonte pas à l'unité, pas plus qu'on en descend. Ça existe dans la musique de Maurice Ravel, mais pas dans les sciences humaines. Donc l'ethnographie nous conduit à remettre en question la dualité du signifiant et du signifié, qui n'a rien d'universel. En ethnographie, nous n'avons pas affaire à des signifiés qui seraient dissimulés derrière des signifiants. Nous n'avons accès qu'à des processus sociaux de signifiance. Ces processus, ils sont physiques. Nous n'avons accès qu'à des surfaces dont je nous propose non pas d'abandonner exactement, mais de suspendre la pensée étagée qui postule un dessus, un dessous, un dedans, un dehors, un centre et des périphéries et reconstruit le monde hiérarchiquement en distinguant et en subordonnant des étages. Il nous faut procéder autrement en se délestant d'un appareillage idéologique qui postule des instances normatives qui se trouveraient en arrière ou en haut ou en bas et viendraient soutenir un édifice en construction. Si on procède de cette manière-là, comment dire, par la survalorisation du concept, la fraîcheur de la découverte, elle est ethnographique, va être recouverte par des idiolectes interchangeables. Procéder autrement, ça veut dire non plus explorer, creuser, transpercer, comme ce que Devreux appelle le bâton rigide, mais effleurer, comme ce qu'il appelle le bâton lâche. Procéder horizontalement, à l'instar de l'architecture japonaise traditionnelle, qui est une architecture par ajout, en parcourant, en effleurant des surfaces, en ouvrant, en élargissant un horizon. Si je résume ce que je viens de dire dans une première approche, je dirais que ce mode de connaissance, c'est plus celui de l'idéalité du sens, comme dans l'humanisme européen, mais de la matérialité des sens, c'est-à-dire des sensations. Il s'effectue dans la matérialité de corps qui se rencontrent ou s'évitent, de corps qui se rencontrent, fût-ce de manière discrète, dans des regards échangés, un sourire, un salut de la tête, une poignée de main. Au Japon, c'est encore moins, mais ce n'est pas rien. Ce mode de connaissance sensible, il ne se constitue pas dans l'abstraction des idées générales, mais dans l'épaisseur et surtout la surface du sensible. Vous voyez, une théorie de la connaissance, elle est indissociable d'une réflexion sur la perception, et dans ce qui nous est donné à voir et à écouter, il n'y a pas de dedans, mais seulement des surfaces. Donc, à partir de là, je dirais, les notions sur lesquelles je travaille, c'est celle de surface, de ligne, de flux, de forme, de scène, avec Goffman, de mise en scène. J'ai tenté une première esquisse de cette perception dans mon premier livre sur le Japon, Tokyo, ville flottante. Je me suis imprégné de l'art de l'ukiyo-e, qui est l'ancêtre des mangas, qui est un art des surfaces avec des peintres que vous connaissez tous, Okuza, Hiroshige, Utamaro. Je n'ai jamais cessé de voir et de revoir les films de Ozu qui désengorgent la perception de la vanité des profondeurs. J'ai vu aussi beaucoup les installations d'art contemporain de Murakami Takashi. Et puis, il y a trois auteurs qui me sont venus en aide. C'est Merleau-Ponty, qui écrit notamment « Le plus profond dans l'être humain, c'est la peau ». c'est Wittgenstein qui engage une critique des mythologies de l'intériorité, et c'est Lévinas. Alors vous connaissez tous son livre Totalité et infini. C'est ce qui est intéressant, c'est le sous-titre du livre qui s'appelle qui c'est sur l'extériorité. Alors, je pense que vous avez fait allusion à mon livre qui s'appelle « Une anthropologie modale ». Alors, vous comprenez bien que dans ce que j'appelle une anthropologie modale, il y a mon opposition à l'anthropologie structurale. Dans modal, il y a mode, modulation, manière, allure, tournure, courbure, forme. Et c'est l'attention aux tonalités, aux intensités, vous l'avez dit, aux intensités chromatiques, sonores, et pas seulement à la totalité, c'est l'attention aux transformations du temps qui oscille entre la lenteur et la vélocité, c'est l'attention aux flexions du corps et de la pensée, ou plus exactement au corps qui crée de la pensée. Parce que le langage est une infime partie du social. Et si j'avais peut-être le temps tout à l'heure de parler de la danse contemporaine, ce n'est pas du tout du langage. Alors, pour m'approcher de cette anthropologie modale, je me suis imprégné du cinéma en noir et blanc, et en particulier du cinéma muet, par exemple Bergman, Dreyer, Murnau. Et dans ces films, le cinéaste travaille toutes les nuances infimes de ce qui n'est pas franchement noir et n'est pas blanc non plus, les nuances de différentes teintes de gris qui passent par le gris argenté, le gris Fukagawa, le gris cendré pour se transformer en gris plus sombre encore qui tend vers l'anthracite. Ce qui nous intéresse, ce sont les transformations, les états intermédiaires, l'aube, l'aurore, l'heure bleue, le rayon vert, le devenir bleu de la couleur verte, le vert qui devient verdâtre, puis vert foncé avant de disparaître. Ce que j'appelle pensée modale, c'est une pensée du passage d'un état à un autre. Et là, il y a un auteur qui peut nous aider toujours, c'est Walter Benjamin. Lorsqu'il étudie les passages au sens architectural, vous savez comme il en existe à Paris et aussi à Lyon, les passages du 19e au 20e siècle, les passages de l'allemand au français, nous sommes des chercheurs, c'est-à-dire des passeurs. Nous ne sommes pas des douaniers veillant à la surveillance des frontières, mais plus volontiers des contrebandiers. Nous sommes des traducteurs. C'est là... Le modèle qui est le plus proche des sciences sociales, pour moi, c'est la traduction. Une pensée modale, ce n'est pas une pensée de la catégorie, c'est-à-dire de la réalité découpée. Pour penser de manière modale, il faut cesser de penser dans la logique de l'être. Je dirais qu'il faut cesser de penser en grec. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'être, c'est le comment. Ce sont les multiples variations du comment. Comment faire, comment vivre ensemble. Donc, abandonner la pensée du signe parce qu'il y a encore tant de possibles à explorer. Et ces possibles, ce sont les formes. Dans une approche modale du réel, la question du sens du social ne peut être appréhendée en dehors de la question de la forme. Les formes, c'est ce qu'on appelle au Japon des kata. Les kata, ce sont des gestes et des actes acquis à partir de modes d'apprentissage d'une extrême précision. La notion de kata, elle est étroitement liée à la notion de do, du chinois dao, qui signifie voie, mode, manière. Marcher vers la vie, le tchado, le shodo, le judo, le bukido, ce sont des voies effectuées souvent dans ce qu'on appelle dojo. Et ça, c'est la quintessence de la culture japonaise. Rien n'existe en dehors de ces katas, de ces formes. En dehors des kata, il n'y a rien, ou plutôt il y a les étrangers, gaijin, qui ne comprennent pas les kata. Mais si je quitte maintenant le Japon, parce que c'est le propre de toute culture de créer des formes, ces dernières, elles sont, les formes, elles sont généralement rejetées dans les marges du social comme quelque chose de subalterne, des fioritures qui viendraient s'ajouter à nos comportements. Or, nos comportements, ce sont nos manières de vivre ensemble, de nous rencontrer, de nous éviter, de parler, de marcher, de manger. Les formes, ce ne sont pas des expressions, ce ne sont pas des représentations, ce sont des créations. Parce que si je dis expression, il y a un référent, par exemple biologique ou économique, il y a une instance première. Si je dis expression, ça présuppose qu'il existerait des signifiés cachés derrière les signifiants qu'il suffirait de ramasser. Les formes, les modes, les manières, les katas, ce sont des actes. Donc, ce que je propose, c'est une théorie de l'acte, de l'action, de l'agir, comme dit Habermas, c'est une théorie de l'acteur, narrateur, auteur, danseur, spectateur qui reprend l'initiative du sens. Ce qui m'intéresse, c'est l'acteur. Au sens de mon ami Alain Touraine, mais aussi au sens théâtral. Ce qui m'intéresse, c'est l'acteur et non l'agent, au sens de Bourdieu, et non l'agencement d'un système de signes. Je ne sais pas combien de temps il me resterait, je ne sais pas, 10 minutes à peu près.
Si en 10 minutes c'est bon, ce serait bien.
Allez.
Merci.
Il y a quelque chose que je ne connaissais pas avant mon premier séjour en Chine, et ma découverte du Japon, il y a quelque chose qui est une terre inconnue pour la pensée anthropologique occidentale, c'est le souffle, c'est la respiration. Pourquoi terre inconnue? Pourquoi l'anthropologie, la sociologie ignore-t-elle le souffle? Parce qu'elles ont une conception optique du réel et que le souffle ne se voit pas. Ce qui est difficile à accepter par les individus qui ont été socialisés dans les cultures occidentales, c'est le vide que nous avons tendance à appréhender comme absence, comme manque. C'est tellement angoissant qu'il doit être rempli, qu'il doit être comblé. De même que la parole n'existerait pas s'il n'y avait pas de silence, la respiration a besoin d'air, elle a besoin de vide. Le vide est indispensable pour nous maintenir en vie. L'énergie, dans l'exposé précédent, on a parlé d'énergie. L'énergie ne circule que dans le vide. Le son qui émane de la flûte dépend uniquement du vide que forment les trous. Sans vide, il n'y a pas de souffle et donc il n'y a pas de son. Mais le vide, ce n'est pas très solide, vous avez remarqué. Le vide, ça ne fait pas le poids par rapport à nos idéologies en béton. Et ce que la pensée chinoise et japonaise est susceptible d'insuffler, c'est l'air sans lequel nous ne pourrions pas respirer. Alors, quelques mots sur cette notion d'énergie. Il y a des énergies qui peuvent être figurées par ce qu'on appelle yin et yang, ce qui ne veut pas dire obscurité et luminosité, mais processus d'obscurcissement et d'éclaircissement. Temporalité de concentration et d'expansion. Ce n'est pas une logique de la polarité, c'est une rythmique de la pulsation. C'est une rythmique de la respiration. Il nous faut désenclaver yin et yang de son carcan idéologique pour les restituer à leur vocation anthropologique. Carcan idéologique, je veux dire instrumentalisation par le pouvoir chinois du taoïsme diffus. Ce que nous permet de comprendre Yin et Yang, c'est que le visible, c'est la face extérieure d'une énergie en expansion, et l'invisible, c'est ce qui effectue un travail de maturation en secret et en silence. L'invisible, c'est ce qui n'est pas encore apparu ou a disparu. C'est ce qu'on appelle dans le cinéma le hors-champ. À partir de là, nous pouvons non pas abandonner, mais suspendre la notion de signification en tant que plénitude et nous ouvrir à l'amplitude. Il y a des intensités plus ou moins fortes. Si nous éprouvons de la difficulté à dire avec précision yin et yang, c'est parce que nous ne pouvons pas les voir. Mais nous ne pouvons pas les voir à tout moment, n'importe quand, n'importe comment. Mais ces énergies peuvent devenir visibles dans le geste de la calligraphie, dans les arts martiaux, dans la danse. Comme plusieurs d'entre vous, je pense, quand j'étais à Pékin, j'ai pratiqué le Qigong, qui est un travail sur le souffle. Et j'ai eu la chance d'assister au Conservatoire de musique de Lyon, de danse de Lyon, à une leçon de Caroline Carson, qui dit aux apprentis danseurs, le plus intéressant, le plus important dans la danse, c'est le souffle. Il y a 3 ans, un jeune chercheur de l'Université de Grenoble, qui s'appelle Martin Givor, m'a invité à participer à animer un atelier autour de la notion d'énergie en collaboration avec le metteur en scène japonais qui s'appelle Yoshi Oida. Au début de l'atelier, Yoshi Oida ne dit rien. Il salue simplement à la japonaise. Il nous invite à intérioriser des gestes simples qui consistent à faire communiquer le ciel et la terre, à prendre le monde dans nos mains. Et l'atelier se poursuit ainsi en silence. Ce que le langage parvient difficilement à dire, le travail sur le corps est susceptible de le montrer. Et regardez bien, c'est exactement le moment où la proposition de Wittgenstein, que vous connaissez tous, qui clôt le Tractatus, ce que nous ne pouvons pas dire, il convient de le taire. C'est le moment où cette proposition se retourne dans une autre, ce que l'on ne saurait dire, nous pouvons le montrer. Je ne sais pas si vous avez assisté, moi je suis venu à Grenoble spécialement il y a 5 ou 6 ans. C'est un spectacle chorégraphique interprété par une danseuse japonaise qui s'appelle Ito Kaori. Et la pièce a pour titre « Je danse parce que je me méfie des mots ». Si vous me laissez 3-4 minutes, je voudrais aborder la question de la relation entre la recherche scientifique et la recherche artistique. C'est les relations entre l'ethnographie et la création artistique peuvent être posées de la manière suivante. L'ethnographie, nous l'avons vu, c'est un mode de connaissance sensible. Or, l'art, qui n'existe pas en soi, parce que il est mouvement permanent, c'est une intensification de l'expérience sensible, c'est l'élaboration et la réorganisation de cette expérience. C'est un travail sur des intensités sonores, lumineuses, chromatiques et gestuelles. Aussi, je crois que l'enjeu de ces relations, c'est d'interroger l'acte qui consiste à faire varier notre rapport au réel. Dans ce qu'elles ont de plus exigeante, d'original, les formes artistiques ne consistent pas à témoigner, documenter, illustrer, exprimer, c'est-à-dire à être relégué dans la fonction mimétique de la représentation. Elles consistent à faire varier notre rapport au réel en explorant ses virtualités. Je termine bientôt. Vous voyez, les phénomènes auxquels nous sommes confrontés dans nos disciplines sont tellement complexes qu'ils ne peuvent pas être d'une seule manière. La graphie contemporaine est amenée à devenir une polygraphie. Elle a l'aptitude à susciter des graphies multiples, la photographie, la vidéographie, la cinématographie, la muséographie, la scénographie, la chorégraphie. Donc on peut poser de cette manière la relation entre la recherche scientifique et la recherche artistique, et aussi de la recherche, comme une confrontation entre des voies de la connaissance. Les voies de la connaissance anthropologique, sociologique, etc. Et les voies de la connaissance artistique sont aujourd'hui de plus dissociables. Mais elles ne peuvent pas être confondues. Autrement dit, je ne peux pas dissocier la recherche scientifique et la recherche aux sciences de Marcel Proust, mais je ne peux pas les confondre. Donc, j'introduis ici la notion de régime de connaissance qui suppose la reconnaissance de l'autonomie de chacune de ces voies. Et là, je pense qu'il y a un texte fondamental, c'est le texte de Roland Barthes, L'Empire des signes, son livre sur le Japon. C'est un livre polymorphe fait de pictogrammes, de photos, de dessins, et en exergue, Barthes écrit: le texte ne commente pas les images n'illustrent pas le texte. Les questions que se posent les anthropologues, les sociologues et les questions que se posent les artistes sont les mêmes, mais elles sont déplacées. Au cinéma, dans le travail des images et des sons, dans la danse, dans le mouvement du corps, au théâtre, dans l'acte du dédoublement de l'acteur qui produit l'illusion et interrompt l'illusion. Ce déplacement est un dérangement. L'art n'entraîne pas une solution, mais des questions. Ainsi, moi je travaille en ce moment sur le théâtre et la danse contemporaine, ce sont des questions adressées sur une scène à des spectateurs. Et je reviens toujours à la démarche de l'ethnographie, dans laquelle nous réalisons que le langage, c'est une infime partie du social. Les interactions quotidiennes faites de gestes, de mimiques, de silences, ne sont pas réductibles à des énoncés. La plupart des formes de socialité auxquelles sont confrontés les anthropologues et les sociologues, c'est-à-dire manger, marcher, se rencontrer, travailler, sont irréductibles à des énoncés et à une organisation discursive de la pensée. Le modèle de la traduction, qui à mon avis est le plus proche de nous, ne parvient pas à rendre compte de ce qu'il y a de non discursif dans la plupart de nos comportements, les pas de la marche, les gestes du travail, les modulations de la voix. Ce sont des comportements culturels, mais ils ne sont pas langagiers. Juste un mot et j'ai fini. Si je reprends l'exemple du cinéma sur lequel j'ai beaucoup travaillé, si le cinéma, alors évidemment je pense au cinéma dans ce qu'il a de meilleur, au cinéma d'auteur, si le cinéma est susceptible de nous émouvoir mais aussi de nous rendre intelligents, c'est parce qu'il ne se réduit pas à des dialogues. Lorsqu'on parle du cinéma en termes de langage, en termes d'écriture, on parle pour ne rien dire, ou plutôt pour dire ce que n'est pas le cinéma. Et il en va de même avec la photo, le dessin, les arts plastiques. Ces formes artistiques créent de la pensée, mais c'est une pensée en image. Donc l'expression « langage cinématographique, écriture cinématographique, pictural » est non seulement inadéquate, mais falsificatrice. Ces termes ne conviennent encore moins aux arts de la scène, au spectacle vivant. Donc je vous propose de remettre en question l'expression « langage du corps », de renoncer au logocentrisme, au scriptocentrisme occidentalisant qui s'autocrédite d'une légitimité et d'une hégémonie exorbitante. Je m'arrête là, je pourrais continuer. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un petit peu long.
Merci François.